RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce vendredi, dernier magazine régional de la semaine, dernier magazine régional aussi avant que l'on prenne un petit peu de vacances, mais vos différentes rédactions locales, RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, continueront de vous accompagner la semaine prochaine à l'occasion des vacances de la Toussaint. Rassurez-vous, vous serez aussi accompagnés sur le DAB+, avec RCF Champagne-Ardenne. Au programme de ce vendredi, un jour Gaza en France, la question est posée par le professeur Jacques Cohen, il y répondra dans quelques instants à l'intérieur de sa chronique d'actualité. Vous le savez, tous les jours, un maire qui nous parle aux alentours de 18h20. On ira dans les Ardennes, dans la communauté de communes des Crêtes pré-ardennaises ce soir avec Daniel Thomas. Il est le maire de Mondigny. Aux alentours de 18h30, c'est le journal régional qui prend le relais. Après quoi, on s'intéresse à différentes initiatives en région avec des invités, notamment Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. On le retrouve en alternance une fois tous les 15 jours avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. On parlera prévention routière aussi ce vendredi avec Denis Jonnet qui est un des membres de l'association. Et puis hier, vous n'avez pas entendu Jeanne Boudre qui présente Parole de Jeunes. Vous la retrouverez ce soir. Elle balayera les premières semaines de l'année scolaire 2023-2024 entre cours et loisirs. Pas toujours évident de trouver le bon rythme. Pour donner le ton de cette émission, comme tous les vendredis, on commence par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen avec nous par téléphone. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Le titre de votre chronique est éloquent. Un jour, Gaza en France, la question est posée. Avant même de s'intéresser au cas français, Jacques Cohen, on va quand même faire une photographie de ce qu'il se passe à Gaza actuellement, aujourd'hui. Où en sommes-nous, Jacques Cohen ?
Alors, il y a eu une incursion terrestre que beaucoup considèrent comme le début d'une intervention majeure. Je pense que ce n'est qu'un tout petit élément pour l'instant. Il s'agit de faire du Haussmann. Vous savez que le baron Haussmann avait surtout fait des grandes avenues pour qu'on ait plus de problèmes de quartiers inextricables, etc., en cas d'émeute et guerre civile. Bien, c'est ce qui est commencé, c'est-à-dire d'avoir des plateformes de départ complètement dégagées, où on a tout ratatiné, et puis d'avoir des grands couloirs éventuels entre les deux, des grands couloirs qui permettent d'avoir des espaces dégagés, et pour ça, il faut tout détruire. C'est ce qui a été fait par les Américains à Mossoul, à Raqqa, à Fallujah. Et en plus, il y a cette fois-ci, ce qu'il n'y avait pas dans ces villes, la question des tunnels. Alors les tunnels, on peut en partie les effondrer avec des bombes, mais je crois que le plus simple, ce qui finira par se faire, c'est d'employer des gaz modernes et des gaz lourds qui descendent dans les tunnels. Mais une fois la question des otages réglée, positivement ou négativement, hélas. Mais ce que je voudrais raconter aujourd'hui, ce n'est pas tellement la question de Gaza qui va durer des mois, qui est une question très longue, mais c'est l'évolution de la situation française.
Alors comment on peut lier la situation à Gaza avec la situation actuelle française, Jacques Cohen ?
On ne peut pas les lier, parce que l'impression initiale, c'est que Gaza a agi en France, mais ce n'est pas ça. Gaza n'agit en France que comme révélateur. Comme révélateur d'une situation épouvantable, c'est-à-dire que une partie de la population française considère que massacrer les Juifs, c'est tout à fait permis, et soutient donc l'action des pogromistes de Hamas. Et que nous ne sommes pas capables de mettre hors la loi immédiatement cette population. Nous avons eu une politique, j'allais dire, de conciliation ou de tentative désespérée d'intégration, avec plusieurs étapes, si l'on peut dire. En effet, l'intégration, ce n'est pas tellement celle des immigrés récents. Notre problème, ce sont les deuxième et troisième générations d'immigration des années 60-70. Et donc, au moment de Charlie Hebdo, si l'affrontement avait été déclenché, nous aurions eu un noyau de cerises à éradiquer de 30 000 personnes. On a vu dans les émeutes de banlieue récentes que nous sommes passés environ à 600 000 personnes sur des zones que les islamistes peuvent tenir comme zones libérées, c'est-à-dire où les lois de la République ne s'appliquent plus, où on détruit maintenant systématiquement les infrastructures de la République pour que les islamistes puissent implanter leurs propres structures sociales et imposer leurs lois. Le danger, à la limite, il n'est pas là. Parce que ça, c'est une échelle que les États-Unis connaissent, qui est celle de ghetto. Le danger, c'est qu'il y a entre 5 et 10 millions de Français qui sont d'origine nord-africaine, moi y compris, et que pour une partie, ils sont bien sûr extrêmement hostiles et de fidèles défenseurs de la nation française, mais pour une autre, ils sont dans une zone grise. Et l'ambition des islamistes, c'est d'avoir une base qui soit autour de 5-6 millions, qui leur donnerait un poids bien différent. C'est-à-dire qu'après être passé au noyau de cerise de 30 000 et au noyau de pêche de 600 000, il s'agit d'arriver à la noix de coco. Et la noix de coco, c'est une guerre civile s'il y a affrontement. Pour l'instant, les islamistes ne souhaitent pas. Ils continuent à progresser, ils n'ont aucun intérêt à l'affrontement brutal et immédiat. L'affrontement ne pourrait venir que de fractions radicales chez eux, totalement irréalistes, mais il faut savoir que ça existe et que ça peut se produire. Car le principal problème, c'est que nous avons depuis très longtemps donc une population liée à l'Afrique du Nord, qui jusque-là était contrôlée, si je puis dire, par chacun des États, Maroc, Algérie, Tunisie, et ces États, s'entendant pas entre eux, rivaux, encadraient leur population sans unification, bien sûr, de leurs ressortissants. On voit apparaître des courants qu'on pourrait dire internationalistes, qui eux visent, que ce soit les frères, à unifier la Houma, la communauté islamique. Alors ils sont concurrents, il y a des salafistes, il y a des gens liés à Erdogan, avec les frères musulmans, etc. Mais ils vont à peu près dans le même sens, un peu que les différentes sortes de croisés au XIe et XIIe siècle. Et ces gens-là sont porteurs d'une idéologie moyenâgeuse, c'est pas pour rien que je vous parle des croisades. Ils sont probablement le produit de la décomposition de ces pays, et ils sont rejoints en plus par l'Afrique subsahélienne, où l'influence islamique est maintenant totalement apparente, et nous aurons bientôt un grand califat au-dessous du Sahara, qui nous fournit en plus les liens du Mali, par exemple, en France, qui va poser des problèmes majeurs également, car nous ne pouvons pas indéfiniment laisser s'implanter ces gens-là, et le prix à payer sera de plus en plus cher. Le prix à payer pour affronter et marquer un coup d'arrêt sera de plus en plus cher. On voit d'ailleurs de façon, si j'ose dire, un peu risible, que les politiciens de droite et d'extrême droite ne prennent pas non plus la mesure du phénomène. On parle d'expulser quelques binationaux arrêtés parce qu'ils ont déjà été délinquants. Et puis les pays ne donnent pas de visa consulaire et ils restent là quand même comme la plupart des autres. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas l'échelle du problème. L'échelle du problème, c'est que tout individu qui, par exemple, estime que les programmes du Hamas, c'est très bien, devrait être embastillé et ne devrait pas en sortir tant que son pays d'origine ou un pays d'accueil ne veuille de lui. Or, ça veut dire des dizaines de milliers, ça veut dire donc des camps. On a déjà fait de l'internement administratif. Sous De Gaulle, ça concernait l'OAS, justement. Ça a évité à des tas de gens de faire de grosses bêtises qui ont fini à la fin de la crise par pouvoir se réinsérer dans la société française. Ce que je souhaiterais aux islamistes actuels, si on s'occupe d'eux préventivement, s'il faut attendre qu'ils aient tiré dans le tas, malheureusement, il n'y aura pas tellement de solutions, autre que d'en faire autant. Et donc ça, c'est vraiment catastrophique. Donc je voudrais surtout souligner qu'il n'y a pas de perception de la société française du risque de destruction d'une société évoluée par une société primitive, ou du moins plus ancestrale et moyenâgeuse. C'est ce qui s'est passé en Iran. Et là, heureusement, l'Iran a des ressorts. Et le développement en Iran, malgré les embargos qui, à mon avis, sont stupides, commence à poser des problèmes à l'infrastructure religieuse qui, je l'espère, un jour ou l'autre, explosera sous l'effet du développement de la société. Chez nous, nous sommes dans une phase plutôt de régression. Et il y a donc à craindre que ces choses-là ne s'implantent durablement et ne nous mettent en péril. Vous voyez que je ne suis pas très optimiste aujourd'hui.
Effectivement, Jacques Cohen, on vous a connu plus optimiste. On aurait certainement aimé vous entendre un petit peu plus sur le sujet, mais comme vous le savez, le temps sur l'antenne est toujours limité. Certainement qu'on aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne de RCF en Sardaigne.
Je le pense bien, malheureusement je l'espère.
Et pour plus d'informations pour nos auditeurs, ils peuvent d'ores et déjà se rendre sur votre blog, jhmcohen.com, qui est toujours alimenté de commentaires complémentaires à ce que vous nous dites oralement. À très bientôt, professeur.
À très bientôt, même si j'ai quelques jours de retard dans les mises à jour du blog.
Mais vous êtes pardonné, vous rattrapez toujours ça très rapidement.
Merci, merci.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vous le savez, pendant les vacances, les maires qui nous parlent sont des maires que l'on a déjà rencontrés un peu plus tôt dans l'année. L'occasion ce soir d'aller voir ce qu'il se passe à Mondigny avec Daniel Thomas au micro de Jean-Pierre Benoît.
Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît, merci. C'est avec plaisir que je vous écoute.
Et c'est avec plaisir bien sûr qu'on vous accueille ici. Vous êtes bien sûr maire de Mondigny dans les Ardennes. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter de façon un peu générale votre commune, la commune de Mondigny?
Oh ben c'est très très simple. Mondigny est une petite commune rurale située au sud de Charleville-Mézières. Notre commune rurale est composée d'un bourg-centre et de deux hameaux qui comptent au total 200 habitants. Et pour mémoire, en 1972, on était en 90 habitants. Donc on a eu quand même une belle progression.
Une belle progression. Mais alors vous, Daniel Thomas, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'aventure de maire? Quelles ont été vos motivations?
J'avais pas cette vocation-là au départ. Et puis, pris par les gens, moi j'aime bien les gens, j'aime bien le relationnel. Et j'aime surtout le développement. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup à faire à Mondigny. Quand je suis arrivé, moi je suis élu municipal depuis 1977, c'est-à-dire peu de temps après que je suis arrivé à Mondigny. Et puis les gens ont trouvé en moi que j'avais une certaine conviction pour faire avancer la commune. Alors depuis 1977, je suis élu. Et puis je me suis toujours occupé des travaux. Et je suis maire depuis 1995, et puis je suis toujours resté avec des conseillers municipaux successifs. J'avais une marge de conduite qui était quand même l'innovation et puis la progression des villages ruraux. Donc on a entamé une rénovation complète de notre village, alors ça a plus de 20 ans bien sûr, et on commence seulement à terminer la fin des travaux. Alors vous voyez que c'est... et qu'il faut du temps et de la persévérance.
Beaucoup de changements, la commune a changé depuis 1995. Alors, c'est surtout des agriculteurs, c'est des retraités. Quels sont les habitants de Mondigny aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, Mondigny, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs. Il reste deux agriculteurs principaux qui font de l'élevage mixte, hein, c'est-à-dire céréales et de vaches laitières. Et puis on a un petit producteur de produits bio, et puis on a une entreprise de charpente couverture, c'est tout. Alors les gens, ils vont travailler principalement sur Charleville, et on n'a pas d'autres activités dans le village de Mondigny.
Alors Daniel Thomas, c'est vrai qu'un maire est souvent, comme on dit, sollicité. Il y en a même qui veulent plus reprendre le flambeau parce qu'ils se disent il y a quand même des responsabilités, il y a aussi des histoires de sécurité, il y a la prévention. Vous, ça vous fait pas peur finalement?
Pas du tout. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je sais que j'ai accepté cette fonction donc avec les contraintes qui s'imposent. Mais je veux quand même vous dire que on est largement sollicité par l'État. Et l'État se décharge beaucoup sur nous, sans nous en donner les moyens. Alors, moi, je suis un peu caractériel. Je vais dans le bon sens de tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer, des décisions qu'on doit prendre sur le champ, pour que tout se passe le mieux possible, sans contrainte. Voilà. Voilà ce que je fais. Mais bon, je reconnais que pour un jeune maire, il peut y avoir des difficultés. Voilà.
Vous-même, Daniel Thomas, vous êtes au sein d'une communauté de communes. Alors, est-ce que les regroupements ont modifié quand même le rôle du maire? Alors, il y en a qui disent, on n'est plus vraiment le patron chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous travaillez beaucoup, vous êtes même membre, et même vous avez des responsabilités dans la communauté de communes.
Exactement, je suis premier vice-président de la communauté de communes depuis 3 mandats. Alors, je connais quand même très bien la communauté de communes. Mais je suis tout à fait d'accord de travailler avec la communauté de communes. Autrement, j'y serais pas, bien sûr. Par contre, il y a des limites. Il y a la communauté de communes qui nous permet de réaliser des travaux que seul on ne pourrait pas faire. Et puis, il y a la commune sur laquelle c'est le maire qui doit, diriger cette commune le mieux possible. Mais elle doit garder son identité. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez, puisqu'on parle de ça, des projets en cours? C'est vrai que la grande rénovation, elle est en cours depuis longtemps, vous le dites, à Mondigny. Mais vous avez des projets en cours à plus long terme, en ce moment, à Mondigny, puis peut-être dans les communes avoisinantes, mais c'est surtout Mondigny?
À Mondigny, on a pratiquement, je vous l'ai dit, on a pratiquement terminé tous les travaux, tels que l'enfouissement des réseaux, les voiries, les sentiers de piétons, on travaille sur la sécurité et j'ai encore un assez gros chantier de sécurité à une intersection à faire. Voilà. Dans l'instant, c'est ça. On aura plus tard les réseaux d'eau à rénover. Par contre, ces réseaux, il risque d'être repris par la communauté de communes. Ben, bien sûr que ce n'est pas notre volonté, mais c'est comme ça que ça se passe. Dans ces cas-là, on aurait des gros chantiers à faire dans la rénovation des réseaux d'eau potable.
Alors, des projets en cours, qu'est-ce qu'ils vous demandent les habitants de Montigny? Bon, ils vous connaissent bien, c'est personnel, hein, c'est une approche très, j'allais dire, très familiale, très de proximité, hein, le maire dans des communes ardennaises.
Bah écoutez, ce qu'ils réclament surtout les habitants du village, c'est de vivre, avoir du bien-être. Ça, c'est beaucoup sur la sécurité. Alors, les questions principales qu'on nous demande aujourd'hui, c'est la sécurité avec la modernisation agricole. Les exploitations agricoles travaillent avec de plus en plus de gros matériels qui font peur aux habitants. Donc on doit faire des aménagements pour que les habitants et les agriculteurs puissent vivre chacun de leur côté, mais en sécurité. Voilà.
Vous avez quand même beaucoup d'autres activités, vous êtes quelqu'un d'actif, Daniel Thomas. Mais alors pour concilier, pour quelqu'un qui serait maire, peut-être pas vous, mais dans d'autres communes, on peut dire activité professionnelle et puis vie familiale et puis maire, c'est quand même des choses difficiles à faire en même temps.
Moi, je dirais oui et non. Bon, il faut, disons que, bah oui, il faut s'adapter à tout, il faut... Aussi, moi je peux vous avoue franchement, quand j'étais en activité, aujourd'hui je suis retraité, mais quand j'étais en activité, c'était plus compliqué, voilà, c'était pas plus difficile, mais plus compliqué. Bien que j'avais une fonction qui me permettait de me libérer un peu comme je voulais, mais c'est vrai que quand on a une activité professionnelle, c'est assez difficile. Et surtout qu'aujourd'hui, on nous sollicite avec énormément de réunions, la journée, c'est pas toujours simple.
Est-ce que pour conclure, simplement d'un mot, est-ce que vous êtes un maire heureux?
Bien sûr que je suis un maire heureux. Moi, je suis satisfait de ce qui a été fait dans ma commune. Si j'ai pris cette fonction-là, c'est parce que je le souhaitais.
Et que ça vous plaît. Et que vous êtes un passionné.
Oui, je suis passionné. Moi,
Eh bien, on vous remercie. On est obligé de nous arrêter parce que le temps s'arrête. Merci, Daniel Thomas, maire de Montigny, dans les Ardennes, d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci Daniel Thomas, merci Jean-Pierre. Quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional sur RCF. Les titres de ce vendredi 27 octobre 2023, le foyer de charité de Baille propose aux jeunes de 18 à 30 ans un temps fort autour du thème « Aujourd'hui, vous allez marcher avec Jésus », détail du programme. Le député La France Insoumise François Ruffin a organisé depuis plusieurs semaines un tour de France des bonnes initiatives. Il a déjà fait escale dans les Ardennes avant d'autres étapes à venir sur notre territoire.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Avant de développer ces titres, attention, changement d'heure ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'hiver, on recule d'une heure. À 3h du matin, il sera alors 2h, on dort donc une heure de plus. Besoin de discernement dans la vie personnelle, étudiante ou professionnelle, envie de silence et de prière, les multiples propositions des foyers de charité offrent des repères pour orienter sa vie et l'enraciner dans la foi chrétienne. Situé au cœur des vignes et des bois de Champagne, le foyer de charité de Baille propose aux jeunes de 18 à 30 ans un temps fort du 3 au 5 novembre. Le thème de cette année est... Aujourd'hui, vous allez marcher avec Jésus, Emmanuel du foyer de charité de Baille.
Aujourd'hui, vous allez marcher avec Jésus, un peu dans la suite des JMJ à Lisbonne. L'idée de marche, la vie avec Jésus, c'était quelque chose d'assez dynamique, qui nous engage. C'est aussi un chemin à parcourir, un chemin aussi à découvrir, à expérimenter. Donc c'est un peu ce thème-là que Don Jérôme va développer pendant cette récollection des jeunes.
Un temps fraternel, ressourcement, détente, approfondissement et échange.
L'arrivée, c'est le vendredi soir, c'est histoire d'arriver en douceur, d'apprendre à se connaître, et puis de démarrer aussi avec le jeu. C'est la détente aussi, ce temps fort. Et puis, on commencera le week-end avec un petit temps de prière à la chapelle. Le samedi, c'est une journée de récollection. Les repas seront bien sûr conviviaux. et puis partager avec les membres du foyer, dans l'écoute de la musique en même temps, pour que tout ce que nous avons écouté, ça fasse écho en nous, dans le cœur des participants. Par exemple, les jeunes qui ont participé au JMJ, c'est l'occasion aussi de se retrouver.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Renseignements et inscriptions sur le site bail.foyer.fr ou directement sur la page Facebook Foyer de Charité Bail. À l'occasion des Journées nationales du souvenir français qui se dérouleront du samedi 28 octobre au jeudi 2 novembre, comme chaque année depuis 105 ans maintenant, les membres des comités du souvenir français quêteront aux abords des cimetières afin d'aider à l'accomplissement de leur tâche, honorer les morts pour la France. Des permanences sont notamment prévues à Vitry-le-François au cimetière du Midi de 9h30 à 16h. Et à l'approche de la Toussaint, la ville de Reims s'active depuis plusieurs jours déjà pour l'embellissement des nécropoles au cimetière du Nord et de la Neuvillette. Une équipe composée de 6 détenus en fin de peine et de 2 accompagnants de la maison d'arrêt de Reims se sont rendus sur place pour nettoyer et remettre en peinture des sépultures de soldats morts pour la France, dans la continuité d'une action conduite par des personnes en travail d'intérêt général au printemps dernier. Les détenus ont ensuite nettoyé le collaborium du cimetière de la Neuvillette, 2 journées dédiées à des actes citoyens qui contribuent à l'embellissement des nécropoles gérés par des services de la ville de Reims et qui favorisent la réinsertion sociale de détenus volontaires en fin de peine. Une marche blanche sera organisée à Sedan dimanche à 14h en hommage à Loana, une jeune Sudanaise de 10 ans retrouvée morte il y a une dizaine de jours dans une cave du centre-ville. Une enquête pour viol et pour meurtre a été ouverte. Le suspect, un homme de 57 ans, est placé en détention. Le député La France Insoumise, François Ruffin, était en visite dans les Ardennes il y a quelques semaines à l'occasion de son Tour de France des bonnes initiatives, un département qui n'est pas sans lui rappeler la Picardie, sa terre d'attache. Lors de sa venue, il a rencontré les aidantes et les aidants.
Les Ardennes ressemblent à la Picardie quand même pour beaucoup, c'est-à-dire une terre ouvrière qui a été de gauche, populaire, et où voilà, il y a un certain découragement, une résignation qui s'est installée parce que l'industrie est partie. Ce qui est quand même le grand fait, c'est le choc industriel qu'on continue de subir aujourd'hui. Maintenant, j'étais avec les aidants et les aidantes, en fait, parce que ce sont essentiellement des femmes, pour discuter de leurs difficultés. Quand on a un papa et une maman qui souffrent d'Alzheimer, quand on voit ses parents vieillir, ou alors quand on a un enfant handicapé aussi, et que tout ça, ça peut être dur à tenir. Et je le sais parce que c'est une personne aidante sur 3 qui meurt souvent avant la personne qu'elle aide. C'est une personne aidante sur 3 qui doit quitter son travail tellement ça lui bouffe la totalité de sa vie. Et donc la question qu'on avait, c'était comment on fait pour que vous puissiez respirer, pour que vous puissiez supporter ça. La réponse qu'elles ont dite, c'est on a besoin d'aide professionnelle. On a besoin des auxiliaires de vie, on a besoin des aides à domicile. Et on a besoin que vous structuriez ça. Et pour ça, il faut de l'État. Moi, je viens pour dire qu'il nous faut un retour de l'État. Il nous faut un retour d'un État fort sur la question industrielle. Et écouter avec un patron qui disait, et on ne peut pas laisser faire la mondialisation. Il faut un État qui protège. Il faut un État avec des quotas d'importation, des taxes aux frontières, des barrières douanières là-dessus. Mais c'est vrai aussi sur le terrain des aides à domicile. Si on laisse faire le marché, le dialogue social, comme le dit Elisabeth Borne, ça fait que les aides à domicile, elles n'arrivent pas à vivre de leur salaire aujourd'hui. Et donc, il faut un État qui vienne dire statut revenu pour les auxiliaires de vie, au salaire, des salaires et des horaires. Et que derrière, ça permette aux aidants familiaux de s'appuyer sur elles, que ça devienne un vrai métier, une vraie profession. Donc, je suis là pour porter ça.
François Ruffin avait lancé sa tournée des bonnes initiatives lors de la rentrée de septembre à Dieppe, une tournée qui se poursuit toujours. Quelques rendez-vous sport collectif en région, les basketteurs du Champagne Basket ouvriront le bal ce soir à 20h avec la réception d'Orléans pour la 3e journée de Pro B. Le match se joue au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Châlons-en-Champagne. En Ligue féminine de basket, les Flammes auront fort à faire ce week-end puisque samedi à 19h, elles se déplacent à Villeneuve-d'Ascq pour la 6e journée. Les Nordistes ont pour le moment gagné toutes leurs rencontres. Deuxième journée de Liga de volley au programme. Chaumont reçoit Narbonne samedi à 18h. Et puis du football aussi avec samedi à 17h la 10e journée de Ligue 1 entre Reims et Lorient. Puis à 19h la 12e journée de Ligue 2 entre le Paris FC et Troyes. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
D'ici la fin de l'émission, ce vendredi, on retrouvera Mgr Éric de Moulin-Beaufort et Denis Jeunet dans quelques minutes. Mais exceptionnellement, il n'y a pas eu de parole de jeûne hier. Mais vous le retrouvez quand même cette semaine. Aujourd'hui, vendredi, l'habituelle présentatrice Jeanne Boudre est mon invitée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Paroles de Jeunes. Non, Jeanne ne vous a pas abandonné aujourd'hui puisque c'est elle, notre invitée de cette émission. Jeanne, bonjour.
Bonjour.
Jeanne, tu es avec nous et on va revenir sur ton quotidien depuis la rentrée scolaire, à la fois au sein des cours, mais aussi de différentes activités, notamment de ton rôle de bénévole pour la radio RCF et de cette émission Paroles de Jeunes que tu présentes habituellement. Comment ça s'est passé de manière très globale cette rentrée, Jeanne ?
Ça s'est assez bien passé. C'était pas facile au début parce qu'il a fallu se remettre au rythme scolaire, mais oui, ça s'est plutôt bien passé.
Alors comment ça se passe justement ce rythme scolaire ? Est-ce que l'année de terminale est chargée ?
Oui, très. Bah, on a beaucoup de devoirs et on est assez stressé parce qu'on est en contrôle continu pour le bac. Donc il faut toujours essayer de se surpasser, même pour les petits contrôles qui servent à rien. Donc il faut tout le temps travailler et c'est très fatigant.
Avec évidemment, comme tu l'as dit, le baccalauréat en ligne de mire. On imagine qu'on y pense dès maintenant.
Ah oui, déjà.
Et puis on pense aussi à Parcoursup peut-être.
Oui, enfin j'essaye de pas trop y penser parce que ça m'angoisse beaucoup, mais il faut penser à son avenir.
On va éviter de t'angoisser, de trop t'interroger sur ton avenir alors dans cette chronique, Jeanne. Est-ce que toi, en parallèle des cours, tu as aussi d'autres activités au-delà de celles de bénévole pour la radio RCF dont on va parler d'ici quelques secondes ? Est-ce que tu pratiques un loisir ou ce genre de choses ?
Non, rien de particulier, mais j'essaye quand même de m'amuser chez moi.
Et voilà, et puis d'avoir une vie sociale avec des amis, on imagine quand même que tu dois sortir un petit peu en ville, des cinémas, des petites activités sympas.
Oui, parfois, bon après, j'ai pas toujours le temps.
Et oui, un emploi du temps bien rempli. Et puis donc, tu as pris cette casquette à la rentrée, effectivement, sur l'antenne de RCF France-Ardennes, de productrice de cette émission Paroles de Jeunes. C'est vrai que c'est un engagement qui est prenant. Comment tu vis ce rôle de productrice bénévole, Jeanne ?
Bah, je le vis plutôt bien, j'aime bien ce que je fais. Après, c'est un petit peu stressant quand même parce qu'il faut que toutes les semaines, je prépare mon sujet, etc. Mais vu que j'aime bien ce que je fais, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas comme des devoirs où je suis forcée de le faire et ce n'est pas très amusant.
Bon, ça va, on ne t'a pas encore attaché, ligoté dans le bureau de RCF. Tu le fais de ton plein gré, Jeanne. Et comment on trouve les sujets justement ? Parce que tu l'as dit, chaque semaine, il faut se renouveler. Il faut trouver à la fois les sujets, mais aussi les invités.
Oui, en effet. Alors moi, ce que je fais, c'est que soit je regarde l'actualité, donc je vais me renseigner, je vais lire le journal, écouter la radio, regarder la télé, ou alors je pense à des choses sur lesquelles j'aimerais connaître plus de choses, et je me demande si d'autres personnes pourraient être intéressées aussi, et dans ce cas-là, je vais en faire un sujet.
Et une fois que tu as trouvé ton sujet, tu cibles des invités, tu te bases notamment sur ton cercle d'amis et de proches, on va dire ?
Oui, c'est ce que je fais. Mais je me limite pas qu'à mes amis, parce que j'essaye aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et parfois, dans mon cercle d'amis, il n'y a pas de gens qui sont concernés par le sujet que je compte faire. Donc, il faut que j'aille chercher ailleurs.
Alors, comment ça se passe dans ces cas-là ? Ça veut dire que tu les démarches via les réseaux sociaux, via de contact ? Comment tu trouves ces autres personnes ?
J'utilise les amis de mes amis et vu que dans le lycée, il y a un petit peu tout le monde qui se connaît parce qu'on est forcé d'être ensemble, j'arrive toujours à trouver quelqu'un, enfin presque toujours, mais oui, c'est comme ça que je fais.
Et c'est facile de dire à une personne qui est un adolescent ou un jeune adulte de la convaincre de parler au micro sur un sujet donné ?
Pas du tout. Il y en a beaucoup qui sont très timides.
Quels sont tes arguments pour les faire parler ?
Déjà, je leur dis que c'est pas filmé, parce que la plupart du temps, quand ils entendent le mot interview, ils pensent à la télé, et donc ils ont peur d'avoir leur tête projetée sur les écrans. Sinon, je peux leur dire aussi que c'est pas très long à faire.
Bon, globalement, tu trouves des arguments plutôt convaincants pour nous proposer des beaux sujets, et on te retrouvera dès la rentrée des vacances de la Toussaint avec de nouvelles très bonnes idées. Merci, Jeanne, d'être venue nous présenter ton quotidien depuis la rentrée scolaire de septembre 2023, et puis on te dit à très bientôt. Très bientôt, c'est la semaine prochaine. Sans transition, le nombre d'accidents sur les routes françaises a augmenté, des accidents liés à la voiture mais aussi à la trottinette électrique. Depuis le 1er septembre 2023, une nouvelle réglementation a été mise en place concernant ces moyens de locomotion. On fait le point ce soir avec Denis Jeunet, membre de l'association Prévention routière de la Marne, avec Christopher Fausten.
Bonjour Denis Genèche.
Bonjour Christopher.
Avec nous pendant ces quelques minutes pour faire un point sur la situation sur les routes, j'ai envie de dire national, mais aussi marnaise. En tout cas, la Marne est concernée par ces derniers chiffres. En parlant de chiffres, Denis Genet, on remarque entre septembre 2023 et septembre 2022 une augmentation importante des accidents. D'après ces derniers chiffres, la situation est plus qu'inquiétante, notamment avec le changement d'heure ce week-end.
Oui, tout à fait, Christopher. On est préoccupé parce que là, il y a une hausse importante de l'accidentologie et de la mortalité sur les routes en général. 7% en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 et 9% de mortalité en plus par rapport à septembre 2022. C'est assez préoccupant. C'est la vitesse qui est souvent en cause dans ces accidents. À l'approche du changement d'heure, on va être confronté à un mois compliqué, hein, où la visibilité va être réduite. Et là, il y a beaucoup de risques d'accidents.
Alors la nuit qui va tomber de plus en plus tôt, plus bien sûr cette période hivernale où on a très souvent, notamment dans notre territoire Champagne-Ardenne, eh bien, du brouillard le matin ou le soir ou même pendant la journée, d'être encore plus vigilant, Denis Genet. Alors on le disait, notamment lié à la vitesse, mais la vitesse par rapport à une voiture.
Alors la vitesse, c'est surtout la vitesse des voitures. Hein, qui est la cause des accidents, hein, et des collisions, que ce soit avec un piéton, un cycliste ou un usager en trottinette électrique. Voilà, c'est une cause importante, mais la vitesse n'est pas toujours la raison des accidents. Il y a aussi le fait qu'on respecte pas la réglementation. Et là, je rappelle surtout par rapport aux trottinettes électriques. Hein, aujourd'hui, on voit beaucoup d'incivilité, beaucoup de mauvais comportements liés à l'usage de la trottinette électrique dans les villes. Et c'est vrai que tout le monde le constate aujourd'hui.
Denis Genet, parlons de ces trottinettes électriques, puisque depuis le 1er septembre dernier, les règles ont évolué sur le code de la route, entre guillemets, de la trottinette électrique.
Ah oui, le code a évolué parce que il fallait faire quelque chose, hein, face à la hausse de la mortalité. On est passé de l'année dernière à 47 morts sur l'année, alors qu'on était à 10 en 2020. Donc une hausse importante. On veut pas que ça continue. On veut limiter justement cette mortalité. Et aujourd'hui, la première mesure importante, c'est qu'on ne peut pas conduire une trottinette électrique tant qu'on n'a pas 14 ans, alors qu'avant c'était 12 ans. Donc on est passé à 14 ans minimum pour conduire une trottinette électrique.
Alors il y a certaines règles qui restent et qui doivent persister, notamment ne pas être deux sur une trottinette, de respecter la vitesse maximale et non pas brider la trottinette à 25 km/h. Et puis il y a l'histoire de l'assurance aussi de la trottinette.
Ah, important l'assurance. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut une assurance et que c'est obligatoire d'avoir une assurance responsabilité civile pour conduire une trottinette électrique. Ça, c'est l'élément important. Et comme tu disais, ne pas être deux sur une trottinette, ne pas rouler sur les trottoirs. Les amendes ont été augmentées et ils sont passés de 35 € à 135 € à partir du 1er septembre. Donc, attention à respecter cela. Hein, et justement à respecter la réglementation et notamment le code de la route. Ça veut dire s'arrêter au feu rouge, s'arrêter au stop, hein, et ne pas traverser un croisement sans s'arrêter, et c'est là qu'il y a risque d'accident.
Alors on vient de noter deux points, deux nouveautés depuis le 1er septembre. Denis Genet, on va faire un petit rappel. Le passage de 12 à 14 ans pour pouvoir utiliser une trottinette électrique. Autre nouveauté, c'est l'amende qui est donc augmentée de 135 €. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, Denis Genet?
Non, à ce jour, il n'y a pas d'autres nouveautés, sachant que la prévention routière, nous, on réclamait plutôt le casque obligatoire pour utiliser une trottinette électrique, sachant que 70% des accidents impactent la tête. Quand on tombe, c'est souvent la tête qui prend en premier. Donc nous, on réclamait que le casque devienne obligatoire. C'est le seul équipement de protection de l'usager en trottinette, mais aujourd'hui, il n'est pas encore obligatoire pour conduire une trottinette électrique.
Alors, Denis Genet, on rappelle les conseils de la prévention routière, de la Marne notamment, casque à mettre, qu'on soit en vélo ou en trottinette, et également d'être visible, notamment quand il fait nuit, puisque là, on a ce changement d'heure, et donc la nuit va tomber de plus en plus tôt, et il est bon d'être visible avec un gilet jaune.
Oui, tout à fait. Il faut déjà l'équipement de visibilité de la trottinette avec les catadiopes, le phare avant, le phare arrière, mais être visible avec des gilets, avec des vêtements rétro-réfléchissants, de façon à ce qu'on va vous voir de plus loin, notamment pour les véhicules, hein, notamment avec ce passage à l'heure d'hiver. C'est important d'être visible en trottinette électrique.
Alors, on parle de trottinette électrique, mais c'est le cas aussi pour ceux qui utilisent les vélos.
Tout à fait, c'est la même chose pour les vélos. Il faut être très visible quand on est en vélo. C'est la même chose, on va arriver dans une période hivernale un peu critique. Et là, si on n'est pas vu, si on est habillé en sombre, les véhicules vont vous voir au dernier moment. Et souvent, c'est le choc, hein, et c'est l'accident.
Denis Genet, avant de nous quitter, on va parler rapidement de l'association Prévention Routière de la Marne qui est avec nous aujourd'hui sur RCF pour rappeler ces différentes règles et puis ces risques, cette inquiétude par rapport à l'augmentation des accidents et des accidents mortels également. L'association Prévention Routière se mobilise tout au long de l'année avec des ateliers, des opérations un peu partout, notamment dans l'enseignement scolaire, dans les entreprises et à destination des seniors.
Oui, tout à fait. On commence tout à fait au niveau de l'école primaire, là où on leur fait passer le permis piéton, le permis vélo, le savoir rouler à vélo en CM1, CM2. Après, en collège, on les prépare à passer l'attestation de sécurité routière niveau 1 et niveau 2. En lycée, on aborde des sujets comme les distracteurs, la vitesse, l'alcoolémie au volant, les drogues aussi. Et puis en entreprise, on intervient sur les risques routiers en général, notamment pour les salariés qui roulent beaucoup. Et on a un gros programme pour les seniors sur rester mobile, pour redonner confiance aux seniors, leur faire une révision complète du code de la route. Parce que quand ils ont passé leur permis de conduire, il n'y avait pas toutes ces infrastructures, les giratoires, les panneaux qu'on voit aujourd'hui qui n'existaient pas au moment où ils ont passé le permis de conduire. Voilà, on a tout un programme important pour les seniors.
D'ailleurs, le programme Restons Mobiles à destination des seniors, est-ce qu'on peut donner les prochaines dates de prévu?
Alors, on a des dates au mois de novembre sur Mourmelon, on a des dates à Reims, également au Clic de Reims. On intervient aussi auprès des 65+ à Reims. Et on a différentes dates qui sont encore à valider. Mais on a un gros programme Restez Mobile Senior. Et on incite toutes les structures seniors de venir nous contacter pour mettre en place ce type d'atelier très utile pour les seniors.
Merci Denis Genet, membre bénévole de l'association Prévention Routière de la Marne. À très bientôt sur RCF.
À très bientôt, Christopher.
Merci Denis Genet et Christopher. Face au changement d'heure ce week-end, la sécurité routière rappelle aux piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes l'importance de se rendre visible alors que la nuit tombera plus tôt.
Le 18-19 sur RCF.
Pour les dernières minutes de ce magazine régional, nous sommes avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, qui s'entretenait avec Jean-Pierre ce matin, rediffusion.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes en direct avec nous ce matin. Alors c'est vrai qu'on vient d'entendre dans l'actualité quelques nouvelles toujours peu rassurantes d'Israël et de la bande de Gaza.
Eh oui, écoutez, on ne peut qu'être triste de ce qui se passe là-bas, dans ce que nous appelons la Terre Sainte, après les attaques terroristes qu'Israël a subies et le grand traumatisme que ça représente pour nos frères, nos frères juifs. J'hésitais avec ce sont nos pères dans la foi, mais disons ce sont nos frères dans l'humanité dans ce drame. Et voilà, maintenant Israël veut poursuivre la masse, ce qui est légitime, mais ça fait dans des conditions que l'on sait, avec beaucoup de destruction, beaucoup de morts civiles. Et on ne peut que soutenir l'action de l'Union européenne qui réclame qu'il y ait des couloirs humanitaires et que ça permette et l'accès à des vivres et la possibilité de sortie pour la population.
Monseigneur, on vous a...
Là, il faut, plus que jamais, il faut demander vraiment à être nous-mêmes, partout où nous sommes, des artisans de paix.
Monseigneur, il y a quelques jours, on est heureux de vous retrouver sur l'antenne de RCF pour évoquer Kérigma. On peut peut-être en donner encore quelques nouvelles. Kérigma, le rassemblement à Lourdes auquel vous avez participé.
Voilà, donc je suis allé à Lourdes vendredi, samedi, dimanche et lundi, lundi matin, avec un groupe 29 délégués, disons, du diocèse, donc, qui étaient toutes des personnes engagées dans la catéchèse, dans le catéchuménat, voilà, dans différentes activités, dans lesquelles ils sont amenés à professer la foi, à annoncer la foi. Nous ne sommes plus dans un monde où la foi est chrétienne et l'air que l'on respire, donc il nous faut soigner notre manière d'annoncer, de rendre compte notre foi. Alors c'est ça qu'exprime le mot kérigme, qui veut dire l'annonce. C'est un mot grec repris par saint Paul et les premiers chrétiens. Donc il dit la proclamation que Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre vie. Il est mort et ressuscité pour moi et pour chacun de ceux à qui on s'adresse. Ils ont vécu deux jours et demi formidables, très dynamiques, très intéressants, avec des conférences très bien faites, avec un échange aussi de ce qu'on peut appeler des bonnes pratiques ou des initiatives. Et tout ça était fort riche. Maintenant, il reste à le diffuser dans le diocèse.
Alors, justement, puisqu'on parle de rassemblement, il y a bien sûr le synode qui se déroule actuellement à Rome. Peut-être quelques mots sur le sujet, Monseigneur.
Oui, bien, donc le synode arrive à sa fin. En fait, il s'agit de la première session d'un synode qui en comportera deux. Donc, des choses importantes et conclusives auront lieu dans un an. Il y a déjà eu donc cette assemblée, cette session synodale a publié une lettre au peuple de Dieu pour rendre compte de la belle expérience d'échange qu'ils ont vécue et pour inviter déjà à ce qu'on travaille les thèmes qui vont sortir. Et puis ils annoncent donc pour dans quelques jours, deux, trois jours apparemment, la publication d'une sorte de synthèse qui fera le point sur les pour eux, chaque fois ils ont abouti, ce qui reste en discussion ou ouvert, et le travail qu'ils attendent des églises locales, donc de nous tous. Donc c'est une étape dans un processus. Voilà, il y a les quatre évêques français élus par leur père, plus le cardinal Avelin nommé par le pape, plus une dame, Anne Ferrand, consacrée dans le diocèse de Rodez, et qui a participé pleinement à ce synode. Et à l'Assemblée plénière de Lourdes, bientôt, nous recevrons leurs échos, leur analyse.
Alors justement, Monseigneur, l'Assemblée plénière des évêques de France va commencer dans quelques jours. Bien entendu, comme président de la conférence, vous allez là une semaine assez remplie avec un certain nombre de dossiers.
Oui, ça sera l'Assemblée est un moment important dans notre vie pour nous évêques, hein, deux fois par an. Celle de novembre est plus longue, nous avons des délégués des conférences épiscopales européennes que nous avons invités, il y a aussi des évêques d'outre-mer, et voilà, j'aurai la joie de retrouver l'évêque de Basse-Terre en Guadeloupe et l'évêque de Saint-Île-la-Réunion, aux installations desquelles j'ai pu aller, ordination installation desquelles j'avais pu aller. Voilà, donc nous traiterons beaucoup de la mission, c'est un grand thème, avec un peu une question que, voilà, on parle beaucoup de mission, missionnaire, mais qu'est-ce que nous voulons dire exactement? Qu'est-ce que signifie annoncer l'évangile dans une société sécularisée comme la nôtre? Ou, autre manière de poser la question, dans un temps où nous sommes devant une pluralité religieuse partout dans le monde, donc que signifie annoncer l'évangile? Qu'est-ce que nous en attendons? Qu'est-ce que nous espérons?
L'assemblée plénière va démarrer le 3 novembre, je crois.
Démarre le 3 novembre au matin, pour ma part, j'y partirai, il faut que je sois le 2, donc je partirai de Reims dès le soir de la Toussaint.
Alors justement, Monseigneur, puisqu'on évoque la Toussaint, une grande fête de la Toussaint, ce sera mercredi prochain, il y aura une prière pour les prêtres défunts ce jour-là.
Oui, bien écoutez, d'abord, il y a la fête de la messe de la Toussaint, qui n'est pas tout à fait la messe des défunts encore, mais qui nous. Voilà, qui la Toussaint va venir. Je dirais comme couronner une rentrée que j'ai trouvée pour ma part très joyeuse, avec d'abord les GMJ évidemment, et puis le voyage du pape à Marseille, l'ordination de Monseigneur Véteux. Pour ma part, ce rassemblement kérigma, tout ça, c'était des moments notre rassemblement du 7 octobre, la Saint-Remy, voilà, nous avons vécu de très beaux moments. Et la Toussaint nous donne l'espérance que nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la vie plénière en Dieu et avec Dieu. Voilà. Mais l'après-midi, comme je dois partir le lendemain, le 2, dès l'après-midi 1er à 15h, j'irai au cimetière de l'Ouest prier pour les prêtres défunts et avec les vicaires généraux et toutes les personnes qui voudront nous accompagner à Reims. Hein, ça se passe à Reims, au cimetière de l'Ouest, donc à 15h. Nous en profitons évidemment pour prier pour toutes les personnes, toutes les familles qui sont en deuil et tous ceux qui viennent sur la tombe d'un proche.
Donc on peut relancer cet appel aux auditrices et aux auditeurs de RCF. Tout le monde est invité, tout le monde est convié. C'est donc le mercredi 1er novembre à 15h au cimetière de l'Ouest pour les prêtres défunts. Vous avez des rendez-vous aussi ce week-end, Monseigneur, simplement pour savoir si vous êtes un peu de... vous avez des rendez-vous avec des...
J'ai la joie de confirmer à Rethel un beau groupe d'une trentaine de personnes avec... des jeunes adolescents et des parents, des mères en particulier, des mères de famille. C'est une grande joie.
Donc, rassemblement aussi avec les confirmants. Et puis, vous l'avez rappelé, la fête de la Toussaint, c'est un rendez-vous que beaucoup de nos auditrices, auditeurs, et puis bien au-delà, il y a en général beaucoup de monde hein, dans les célébrations.
Il y a du monde dans les célébrations, il y a du monde après le jour-là ou le lendemain qui va au cimetière. L'occasion de nous rappeler que tous nous sommes destinés à mourir, mais surtout, nous sommes faits pour la vie éternelle, nous sommes faits pour vivre pleinement, et ce que nous avons ébauché sur cette terre est fait pour s'accomplir vraiment en Dieu, c'est notre espérance et notre joie.
La conférence des évêques, simplement pour terminer, Monseigneur, elle s'achève le 6 le novembre. Quelles sont les dates à peu près de cette conférence?
Du 3 au 8.
Du 3 au 8 septembre. On aura bien sûr l'occasion de nous retrouver, de votre retour, et puis peut-être même au cours de cette assemblée. Monseigneur, vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, à très bientôt sur RCF.
Bonne journée Jean-Pierre, bonne journée à tous et à toutes. Et bonne Toussaint.
Et bonne Toussaint à vous, Monseigneur. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, merci Jean-Pierre, on vous retrouvera la semaine prochaine. Vous présenterez un magazine local à 18h10 sur RCF France-Ardennes. Les auditeurs de RCF Cœur de Champagne, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas en reste avec des propositions adaptées en local par votre rédaction. Le magazine régional fera son retour lundi 6 novembre avec toutes les équipes au complet. Avant de se quitter, quelques informations à vous donner encore et à vous rappeler ensuite dans l'actualité protestante. Ce dimanche à 10h30, un culte de commémoration du temple est organisé. Il avait été reconstruit en 1923 après avoir été détruit en 1914 par les bombardements de la Première Guerre mondiale. Le nouveau temple est l'œuvre de l'architecte Charles Le Trône. Rendez-vous donc dimanche à 10h30 au temple Boulevard Lundy pour les 100 ans du temple protestant reconstruit. Autre événement dimanche, la clôture du synode des évêques à Rome en présence de Monseigneur Alexandre Joly, évêque du diocèse de Troyes. Et pour tous les rendez-vous du week-end, une information à vous rappeler que l'on donnait à l'intérieur du journal régional déjà, le changement d'heure. Et oui, parce que si on ne change pas l'heure, on ne sera pas à la bonne heure au rendez-vous que l'on a fixé dans la nuit de samedi à dimanche. On passe à l'heure d'hiver, on recule d'une heure. À 3h du matin, il sera en fait 2h, on dort donc une heure de plus. N'oubliez pas de régler vos montres et horloges pour ne pas rater vos rendez-vous dominicales. Le 18-19 régional prend un temps de repos. La semaine prochaine, j'aurai plaisir à vous retrouver avec toutes les équipes à partir du lundi 6 novembre sur RCF France-Ardennes et RCF Cœur de Champagne. Vos programmes locaux, on l'a dit, vous accompagnent tout au long de la semaine prochaine. Un très bon week-end avec un peu d'avance, une bonne fête de la Toussaint. Prenez soin de vous. Dans quelques instants, l'information nationale prend le relais. C'était Thierry Delis à la mise en onde qui envoie les jingles. On le retrouve lui aussi à partir du 6 novembre. À très bientôt.